Le chemin de la laine.
Maille numéro 10, le tissage.
Delphine Hatché est tisserande et teinturière au sein de son atelier Malice situé à Versols-et-la-Paire, non loin de Saint-Affrique. Anciennement formée en gestion et valorisation des déchets, elle est professionnellement active dans le tourisme et le patrimoine. C'est naturellement qu'elle s'est intéressée au devenir de la laine locale.
Je rencontrais en fait beaucoup d'éleveurs dans le cadre de mon activité et la question éternelle était: qu'est-ce que vous faites de la laine qui est considérée comme un déchet en fait par les éleveurs. Et à force d'entendre ce discours, je me suis dit bon, il faut peut-être arriver à faire quelque chose de cet élément. Et donc de fil en aiguille, je me suis documentée et donc du coup j'ai cherché un organisme pour me former.
Dans son parcours de formation, Delphine a exploré différentes étapes de transformation de la laine. C'est à la découverte d'un métier à tisser au château de la Tour-sur-Sorgue qu'elle a décidé de devenir tisserande. Une activité alliant rigueur, méthode et valorisation de la laine que nous découvrons avec elle au sein de son atelier.
Là, je vois que vous avez deux métiers à tisser différents.
Oui, alors j'ai un gros métier, c'est le premier que j'ai eu, mais qui est un petit peu grand pour moi. Et j'en ai un plus petit, qui est un métier Leclerc, donc c'est une marque canadienne qui se fabrique encore. Donc c'est un métier qui a quatre cadres. Et le fait d'avoir quatre cadres permet de développer pas mal de motifs différents.
Et du coup, la laine que vous utilisez, elle vient d'où?
Alors la laine que j'utilise est française. Le fournisseur principal que j'ai... avec qui, pour moi, c'est facile de commander, c'est laine paysanne. Après, j'arrive à en avoir avec la filature Colbert de temps en temps dans le cadre de leur association avec le collectif Tricolore. Ça leur arrive d'avoir des lots de fil.
Vous réalisez des tissus épais, mais des tissus.
Alors, épais et fins aussi, parce qu'en fait, avec la laine française, c'est difficile d'avoir un fil très, 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 très fin. On a perdu ce savoir-faire. Donc il y a quelques éleveurs dans les Alpes qui font transformer, auprès de qui on peut avoir un fil très fin en mérinos. Mais moi, quand j'utilise du fil très fin, j'utilise de l'alpaga. Donc là, j'ai un fournisseur qui est sur la cavalerie. C'est Aurore Arnal, les alpagas filent sur le Larzac. J'utilise aussi un autre fil fin, mais qui est plus gonflant, c'est un soie mohair. Voilà, donc je peux avoir des tissus très très fins, mais pas avec la laine. Avec l'alpaga, bon, c'est... notre matière animale, mais voilà, c'est de l'alpaga.
Delphine utilise différentes fibres dans ses tissages. Elle revient sur les aspects techniques de son métier de tisserande, nécessitant de nombreux calculs qui lui plaisent particulièrement tout en préparant une navette de fil.
On remplit un côté, puis l'autre, et ensuite le centre, de façon à ce qu'elle se déroule le mieux possible quand on tisse. Bon, des fois, il y a quand même des petits accrochages, mais voilà, il y a une technique pour que ça glisse le mieux possible.
Alors, vous parliez de rigueur et de mathématiques. Comment ça se joue dans votre métier ?
La laine, notamment, est très élastique. Et cette élasticité, il faut la prendre en compte lorsqu'on calcule la longueur de la chaîne que l'on va monter sur le métier à tisser, de sorte d'avoir au final le tissu de la dimension que l'on souhaite avoir. Donc il y a un pourcentage de perte due au montage de la chaîne à calculer et un calcul aussi sur le retrait du tissu. Le retrait peut être assez important quand c'est la laine, ça peut aller jusqu'à 30% en moins. L'alpaga bouge beaucoup moins par contre. Donc déjà, il y a ce calcul-là à faire. Après, en fonction du motif que l'on veut faire, j'enfile dans chaque dent du peigne et ensuite dans chaque lisse qu'il y a sur les quatre cadres d'une façon méthodique pour avoir le motif que l'on souhaite. Il y a le pédalage. Donc en fait, chaque cadre est relié à une pédale. Donc quand on appuie sur la pédale, ça ouvre de façon à pouvoir faire passer la navette. On va avoir un motif qui va se dessiner. Si le motif, c'est on appuie sur la pédale 1, puis 2, puis 3, puis 4, et bien on continue comme ça. Mais ça peut être 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Alors les deux navettes font pas le même bruit parce que ce ne sont pas les deux mêmes.
À partir des tissus que Delphine Hatché crée dans son atelier de tissage, elle élabore différents modèles de vêtements et d'accessoires textiles.
Vous faites les patrons aussi, c'est vous qui faites l'assemblage des,
oui,
des pièces.
Oui, alors je m'inspire de patrons que je modifie pour qu'ils soient à mon image. Et après, je fais mon montage et la couture.
Donc vous avez des vêtements, des sacs, des pochettes.
Oui, et des écharpes. Pour sortir une écharpe, il me faut à peu près 3 jours. Mais donc l'idée, c'est quand même de gagner du temps, parce que rien que pour monter la chaîne, il faut une journée à une bonne journée selon l'épaisseur du fil.
La chaîne, c'est en fait le déroulé des fils qui reçoivent après les navettes et le fil à la perpendiculaire, c'est ça ?
Exactement, c'est ça. Donc il y a déjà une journée de montage, et puis après le tissage proprement dit, oui, c'est à peu près 8 heures pour une écharpe. En général, quand je monte une chaîne, je fais en sorte d'avoir plusieurs articles sur la même chaîne. Par exemple, ce que je suis en train de tisser, il y aura une veste, un pull sans manches et un tour de cou.
Delphine vient de terminer une pochette rouge et écrue, tissée avec de la laine Lacone.
Ah oui, bicolore avec quand même un sacré travail de jacquard, quoi. Je ne sais pas si on appelle
donc,
ça comme ça.
Ça s'appelle un overshot. En français, je ne sais pas le dire. Il y a beaucoup de vocabulaire anglais en fait, dans le tissage, parce que c'est les communautés anglophones qui étaient expertes en tissage. Donc là, la pochette, c'est un mélange d'écru et de rouge. Donc l'écru, il est dans la chaîne. Et en trame, le rouge qui forme le motif. Là, c'est de la laine Lacone. Voilà, donc là j'étais contente de pouvoir enfin utiliser la laine Lacone, parce que le but de mon projet au départ, c'était quand même d'arriver à valoriser la laine Lacone. Et donc là, voilà, c'est un motif assez complexe.
C'est répétitif qu'au bout d'un long moment de navette. Quoi.
Oui, c'est ça, il faut plusieurs passages de navette. Alors là, je n'ai pas le nombre en tête, mais je pense au moins une trentaine, pour avoir le motif en entier.
Donc là, la laine Lacone, elle est très rouge, c'est la cochenille ?
Et non, là, c'est la garance des teinturiers. Donc celle-ci, je n'en avais pas dans mon jardin, donc celle-là, je l'avais achetée. Mais là, maintenant, j'en ai mis dans mon jardin, donc dans 2 ans, maintenant, je vais pouvoir teindre avec de la garance de mon jardin. Voilà, donc je suis contente. Pour le moment, elle se porte bien.
C'est très bien.
Delphine Hatché réalise elle-même les couleurs des fils de laine pour ses créations. Elle nous en parle plus longuement dans le chemin de la laine maille numéro 9 sur la teinture, mais revenons à son activité de tissage de laine.
On peut peut-être décrire un peu tout ce qu'il y a dans votre atelier.
Il y a des cônes, il y en a un petit peu partout. J'ai des cônes de laine, de différentes laines. J'ai aussi de l'alpaga. Bon.
Et alors du coup, l'alpaga et la mohair et la laine, ça a vraiment des vertus et des comportements différents.
Alors au niveau des vertus, c'est les mêmes vertus que la laine, hein, une matière renouvelable. Le mohair a en plus un autre avantage, c'est que cette matière-là n'attire pas les mites. Les mites n'y vont pas dedans. Je suis sujette au psoriasis. Depuis très jeune, au maximum, je privilégie les vêtements naturels. Et quand on a essayé le vêtement 100% laine, franchement, on ne revient pas en arrière. Enfin, moi, je ne reviendrai pas en arrière. Voilà, ce sont des vêtements qui respirent, qui se salissent très peu. Moi, sincèrement, et puis tous ceux qui utilisent la laine, le pull, on le lave que vraiment s'il y en a besoin. Sinon, voilà, on le met aéré dehors. Donc, et la laine que je stocke dans mon atelier, elle est au maximum à la lumière. Et bien, en fait, elle ne risque pas trop grand-chose, parce qu'elle est à la lumière et lavée. Donc, jusqu'à maintenant, je croise les doigts, je n'ai pas trop eu de soucis à ce niveau-là.
Non, ça, c'est 4.
C'était le chemin de la laine, maille numéro 10, le tissage. Delphine Hatché, tisserante et teinturière de laine, nous partageait son savoir-faire ainsi que ses conseils pour préserver et protéger ses pulls de laine d'année en année.
Maille suivante, la teinture.
Où nous retrouverons Delphine de l'atelier Malice, mais aussi Floriane d'Ogaïa. Les interviews et montages de la série Le chemin de la laine ont été réalisés par Alex Guérel de Radio Larzac en partenariat avec le Parc naturel régional des Grands Causses, avec la complicité de Roxane Willem-Jams, chargée de mission attractivité et développement sociétal, et Manon Lila, chargée de mission économie circulaire. Merci à Delphine Hatché pour son accueil et son témoignage.